J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci une fois de plus de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Depuis quelques temps maintenant, plusieurs organisations de la société civile réclament la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ces organisations estiment notamment que la désignation du président de la CENI ne doit plus se faire par une seule composante politique telle que garantie actuellement par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Alors comment réagissez-vous par rapport à cette proposition? À l'adresse pa@radiookapi.net. Rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook avec l'ensemble des compatriotes ici au pays et à l'étranger. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Noël Mokondo assure la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambay sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Ngoma ya kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Le député national Christophe Lutundula a déposé une loi visant à réformer le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Selon l'élu de Sankourou, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, la RDC a connu trois cycles électoraux, tous émaillés de violences. Alors le volume des contentieux électoraux est toujours impressionnant. Alors pour Christophe Lutundula, il est temps d'ajuster l'organisation et le fonctionnement de la CENI pour voir organisateur constitutionnel des élections. Maître Carlos Mopili, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour, Maître Carlos.
Bonjour, Monsieur Gilles.
Vous êtes avocat et expert. Vous êtes avocat et expert électoral. Alors, la loi actuelle sur la CENI pose-t-elle un problème quant à sa composition et son fonctionnement, comme l'estiment certaines personnes ou comme l'a souligné d'ailleurs l'honorable Lutundula?
Merci, monsieur les journalistes. Je salue tous les auditeurs de la radio Okapi. C'est depuis 2015 que nous allons commencer à créer que cette loi organique est conflictogène et déséquilibrée de par sa composition qui n'était pas paritaire. Parce que lorsqu'on se réfère à l'article 10 de cette loi, on dit que la CENI est composée de 7 membres, dont 4 sont désignés par la majorité présidentielle, 3 par l'opposition à l'Assemblée nationale. Et déjà, vous trouverez qu'au niveau même du bureau de la CENI, le président, il est de la société civile, le vice-président, il est de la majorité, avec beaucoup de prérogatives. Le rapporteur, il est de l'opposition. Le rapporteur adjoint, il est de la majorité. Le questeur, il est de la majorité. Le questeur adjoint, de l'opposition politique. Donc, déjà, la composition est déséquilibrée. Et cela crée déjà un problème. Et je salue la pertinence ou la compétence du député Lutundula, parce que c'est comme ça le travail de député, c'est de proposer des lois et pour donner la solution, surtout lorsque les faits n'a pas tout le monde a constaté que même les animateurs n'étaient pas indépendants et qu'il fallait qu'on corrige.
Alors, vous avez été un des intervenants lors de l'atelier national sur la question électorale organisée par l'AETA. Alors, Maître Carlos, au cours de cet atelier, assurément, vous avez eu le temps de faire des propositions sur des mesures d'ajustement qui nécessitent, au fait, cette réforme. Quand je prends, par exemple, la proposition faite par le Tundula, je me rends compte que finalement vous naviguez au fait dans la même direction, où vous prenez tous la même direction quand il s'agit par exemple de la recomposition ou encore de la méthode de désignation du président de la CENI. Est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui?
Oui, effectivement, vous savez que la loi doit avoir un caractère impersonnel. Lorsqu'on élabore une loi taillée sur la mesure, on subira immédiatement les conséquences. Donc, d'abord, nous, au niveau de l'atelier de l'AETA, qui est un atelier national qui a fait inviter toutes les intelligences en matière électorale, parce qu'il faut comprendre que la société civile est vaste, mais ici, c'était l'atelier national de l'AETA qui a fait appel aux acteurs de la société civile et aux organisations de la société civile qui travaillent sur la thématique électorale. Nous avons d'abord été d'accord que les animateurs du bureau de la CENI ils sont fait mandat depuis le mois de juin et qu'il fallait maintenant réfléchir sur les réformes, sur les ajouts. Et par rapport à la désignation du président de la CENI, nous avons voulu qu'il soit désigné par ses pairs. Et avant d'abord qu'on y arrive, nous avons vu qu'il faut que cette fois-ci la composition soit paritaire, c'est-à-dire que les nombres soient équilibrés de la part de ceux qui viennent de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Et avant d'abord d'être désigné, il faut que ces animateurs puissent avoir une expertise avérée en matière électorale et, bien sûr, une probité morale irréprochable. Parce qu'on a compris que lorsqu'on désignait les gens de la majorité ou de l'opposition, c'est des gens qui ont venu apprendre parfois l'orthographe des mots scrutin, élection, qu'on passait par une formation, on dépensait de l'argent, formation accélérée, et cela ne donnait pas une qualification.
Aux animateurs.
Aux animateurs.
Si nous prenons quelques mesures d'ajustement proposées par Lutundula à comparer avec ce que l'atelier de l'AETA a proposé, pour que nous finalement on arrive à tirer des leçons ou encore des conclusions par rapport à cette question. Je prends par exemple la proposition sur les mesures d'ajustement proposées par l'honorable Lutundula. Parmi elles, qu'une personne qui a été 5 ans auparavant membre d'un parti politique ne puisse être nommé à la CENI. Est-ce que vous partagez cet avis?
Évidemment, parce que nous voulons l'indépendance de ces animateurs. Nous sommes d'accord, parce qu'il faut que... c'est facile de dire qu'on peut être un cadre d'un parti politique. Lorsqu'on prête serment à la CENI, on devient indépendant, on a le devoir d'ingratitude. Mais cela, c'est sous le papier. Mais nous voulons ceci. Nous sommes d'accord avec ça. Nous ne sommes pas aussi d'accord avec ce qu'on a constaté, que chaque composante pouvait retirer
la confiance,
son animateur et désigner quelqu'un d'autre, parce que cela signifie quoi tacitement? Que même si vous prêtez serment, vous êtes de l'autre côté, mais vous gardez encore, nous avons encore la pression sur vous, nous jouons encore le rôle de metteur en scène, on peut vous mettre, on peut vous faire limoger. Donc ça, nous sommes d'accord avec ça.
Voilà. Alors, il y a deuxièmement, le président de la CENI doit être une personnalité consensuelle sous proposition de la société civile et acceptée par toutes les composantes, tant il est vrai que le rôle du président est un rôle déterminant, aussi bien pour la gestion de la CENI que pour la gestion du processus électoral.
Évidemment, parce que nous avons voulu que c'est la société civile qui est considérée comme l'église au milieu
du village.
Village, oui. Il doit venir de la société civile, mais je dis la désignation doit se faire d'une manière consensuelle, pas faire.
Mm-hmm.
C'est-à-dire les autres membres qui viennent des différentes composantes puissent le désigner. Et c'est là cette désignation que ça ne puisse pas avoir une pression politicienne.
Alors, toujours dans les grandes lignes de propositions de l'honorable Lutundula, il demande la suppression de la plénière de la CENI. Est-ce que vous pensez que la suppression de la CENI, la suppression de la plénière, donnera ou renforcera l'indépendance même de cette structure?
Oui, il demande la suppression de la plénière, ce n'est pas pour supprimer. C'est parce que le constat a été fait que cette plénière était là, jouait un rôle esthétique.
D'appendice.
Les membres de plénière, on leur donnait des rôles qu'ils dirigent, soit un cadre de concertation avec la jeunesse, avec la société civile, avec les femmes, personnes vivant avec handicap. Et vous connaissez que ces cadres de concertation n'ont pas fonctionné convenablement parce qu'ils n'étaient pas institués. Et parfois, on les prenait pour accompagner un membre du bureau, soit un président ou vice-président, dans une mission. Donc, ils ne jouaient pas
aucun rôle.
Et aussi, c'est le même président du bureau qui est le président de la plénière.
De la plénière. Donc il est jugé parti.
Jugé parti. Mmh. Alors, vous allez croire que lorsqu'on présentait les décisions, la décision prise au niveau de la plénière, mais...
C'était plutôt la décision du président lui-même, la CENI. Alors, pour résoudre cette difficulté, Christophe Lutundula propose le remplacement de la plénière par un mécanisme interne de contrôle qu'on appellera la commission permanente d'évaluation et des contrôles COPEC, chargée du suivi, de l'évaluation et du contrôle. Mais quand je lis les commentaires de certains auditeurs, ils proposent plutôt que le CENSA soit transformé en cet organe de contrôle-là. Que ça soit un contrôle qui n'est pas à l'interne, mais plutôt à l'extérieur de la CENI.
Oui, mais CELSA, non. CELSA pouvait rester ou jouer autre rôle. Mais au sein de la CENI, c'est important ça. Même au niveau de la télé nationale de l'AETA, nous avons aussi proposé aussi qu'il y ait un autre organe.
Au sein de la CENI.
Concurremment pour faire
le contrôle.
C'est que le bureau reste comme l'organe opérationnel pour les opérations électorales, mais qu'il y ait aussi un organe de contrôle, de suivi, comme l'organe de maintenance, c'est-à-dire le réparateur, le mécanicien. Lorsque le bureau, il y a quelque chose qui ne va pas, il le contrôle au niveau des opérations, au niveau du recrutement. Vous connaissez comment le recrutement se fait parfois, hein, sur base de clientélisme. Au niveau des finances, il faut qu'il y ait l'organe. Voilà, c'est un peu ça qui est un peu ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui arrête un autre pouvoir. Et le secrétariat reste vraiment un secrétariat exécutif qui joue son rôle d'administration. Dans toutes les institutions.
Merci beaucoup, maître Carlos Mopili, avocat et expert électoral, un des intervenants à la télé nationale de l'AETA sur la réforme à envisager au sein de la CENI. Et déjà, les voix se sont levées. Honorable député Lutundula a fait même 15 mesures d'ajustement qui doivent faire l'objet de cette réforme. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention. En direct.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et ça sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, JR Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Adrien, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Pensez-vous, Adrien, que c'est opportun, la réforme de la CENI en ce moment? Pour vous, ça passe par quelles mesures d'ajustement?
Oui, merci beaucoup, J.R. Lungembo. Je vous salue. Je salue aussi monsieur l'invité et tous les auditeurs. À mon humble avis, je pense que la question de la CENI, c'est une question certes prioritaire, mais elle n'est pas opportune, à mon humble avis. Parce que pour réformer quelque chose, il faut d'abord une forte évaluation pour peser les pour et les contre. Dans notre pays, j'ai comme l'impression, lorsque nous nous donnons à des réformes précipitées, nous revenons toujours à la case du départ. Vous allez vous rendre compte que depuis 2005, la CENI a connu des réformes, en commençant par la CEI. Et jusqu'à aujourd'hui, on a connu d'abord 3 présidents et vous verrez que le mal ne fait que se répéter. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques et la société civile ne se mettent pas autour d'une table pour pulcher le vrai problème qui gangrène le bon fonctionnement de la CENI. Parce que moi, lorsque j'essaie un peu d'analyser sur la question, je me suis rendu compte que le problème de notre CENI, c'est un problème d'homme. Il n'est pas structurel. Pourquoi d'homme ? Parce que on donne trop de pouvoir au président de la CENI. Là, c'est de 1, donc de 1. De 2, lorsque vous jetez un coup d'œil sur certains pays africains pour éviter ce que nous appelons un tournoi à rond que la RDC est en train de faire avec la CENI, le pays africain, certains pays africains ont décidé carrément de responsabiliser le ministère de l'Intérieur et avec des garde-fous pour que le ministère de l'Intérieur ne puisse pas déraper pour aller au-delà de la mission qui lui est confiée. Donc, au niveau de la République démocratique du Congo, lorsque je prends la proposition selon laquelle le président de la CENI doit être désigné par ses pairs et il doit être accepté par tout le monde, mais là, nous allons vers un blocage qui ne trouvera pas une issue donc dans quelques jours. Parce que là, ça va demander ce que nous appelons l'unanimité de la société civile. Connaissant bien que la société civile est divisée selon les intérêts, d'après les politiciens, il y a la société civile pro-opposition et pro-pouvoir. Et qui va accepter que celui qui est de telle tendance puisse diriger la CENI? Nous irons toujours des blocages en blocage. C'est comme ça que moi, je propose que les hommes politiques peuvent faire, donc peuvent réduire les pouvoirs exorbitants donc reconnus au président de la CENI parce qu'il est devenu comme un prince, celui qui décide sur tel ou tel mécanisme, sur telle ou telle opération. Personne n'a le pouvoir donc de contredire ce que le président dit. Si on peut d'abord réduire son pouvoir exorbitant et en ce moment-là, que la classe politique congolaise puisse maintenant se mettre d'accord pour que le ministère de l'Intérieur puisse prendre la gestion d'organisation des élections, ça sera une solution à mon avis.
Merci beaucoup Adrien. Jonas, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, de nombreuses voix s'élèvent déjà pour, au fait, demander, plaider pour le renforcement de l'indépendance de la CENI en exigeant donc quelques réformes et en proposant également quelques mesures d'ajustement, notamment telles que proposées par l'honorable député Lutundula et aussi l'AETA, qui est cette structure qui fait le suivi de la question sur l'élection. Alors, qui propose, au fait, un bureau qui doit rester opérationnel et au sein de cette CENI, un organe de suivi, question de créer l'équilibre du pouvoir. Qu'en pensez-vous, Jonas?
Merci, monsieur. D'entrée de jeu, je vais d'abord souligner que la société civile a toujours été considérée comme une église au milieu du village, comme nous le chantons toujours, mais c'est aussi une forme des politiques qui peut s'intéresser aux affaires du pays. Et s'il faut restructurer la CENI aujourd'hui et au besoin nommer le président de la CENI qui sort de la société civile, M. Gier. Je pense, à mon sens, qu'avant qu'on y arrive là, il faudrait, de premier abord, que la CENI, l'équipe en place, puisse d'abord finir le travail. Parce qu'il y a des élections qui n'ont pas encore eu lieu. Il faudrait d'abord qu'on continue avec ces élections jusqu'à la fin. Et on va passer à la restructuration. Et vous êtes sans ignorer que cette CENI, si aujourd'hui on parle de la société civile, c'est par rapport aux déceptions que nous avons vécues dans ce pays à partir de du président le fait Abdel Apollinaire Bazmalou, paix à son âme, l'abbé le pasteur Ngoï Moulunda, aujourd'hui nous avons Corneille Nangaa, ainsi de suite. Voyez-vous, chaque président de la CENI qui passe, quand c'était encore le pouvoir en place, on disait que c'est le pro-Kabila. Et le fait qu'il y avait élection, ces élections-là ont été rejetées pour dire que ce sont des élections qui étaient tachées de beaucoup d'irrégularités. Moi, je vais proposer ceci. S'il y aura quelqu'un de la société civile, comme mon prédécesseur l'a dit, Maître Adrien, il faudrait vraiment que quelqu'un qui répond aux critères de la neutralité.
Et qui fera l'unanimité. Parce que quand on sait que la société civile elle-même, elle est plurielle aujourd'hui. La société civile, elle est plurielle.
J'y arrive, monsieur Gilles, merci de me compléter. Dans la société civile, il y en a aussi, pendant la journée, quelqu'un est dans la société civile. Et la nuit, il est dans un parti politique. Alors, vous allez vous rendre compte que si on dit, par exemple, qu'on va puiser, on va prendre celui qui va aller aux commandes, on va le puiser dans l'État, par exemple, ou on va le puiser dans la cage, il y aura toujours des controverses au sein de la classe politique parce que les partis qui sont au pouvoir, chaque parti cherchera à imposer quelqu'un de son choix. Et ça va aller encore de report en report et nous n'aurons pas une équipe qui puisse diriger la CENI de manière voulue par le peuple congolais.
Merci
et
beaucoup.
Pourquoi moi j'avais peut-être pensé, on peut aussi, pourquoi on ne peut pas penser aux élections? Par exemple, on dit, nous allons organiser les élections pour élire le président de la CENI. Et ces élections-là peuvent passer, par exemple, par l'Assemblée nationale.
Oui, c'est
une proposition. Peut élire le président de la CENI ou l'équipe qui peut diriger la CENI pour éviter
qu'il y ait... Est-ce que vous ne voyez pas, Jonas, cette démarche-là? Oui, est-ce que vous ne voyez pas que cette démarche-là, elle reste et demeure encore la politique et ça va entamer quand même, ça dérangerait quand même l'indépendance de la CENI. Parce que bon, on sait comment ça se passe s'il faut organiser une élection au niveau de l'Assemblée nationale et la majorité qui va proposer ses noms, tout va se jouer sur le plan politique.
Oui, monsieur Gilles, vous allez vous rendre compte que même au sein de la société civile, ça ne sera pas vraiment... ça ne sera pas facile. Il y aura toujours des petits problèmes parce que la société civile elle-même est divisée. Vous allez dire il y a société civile de telle, société civile de telle. Et pour qu'on trouve un consensus afin de présenter au peuple congolais un candidat unique et commun qui a l'assentiment de toutes les dissidents de la société civile, ça sera difficile.
Merci beaucoup, Jonas. Merci beaucoup, Jonas. Alors, on va écouter Michel qui est à Guadolité. Michel, vous êtes avec nous? Michel? Michel, vous êtes avec nous? Michel, bonjour. Oui, vous avez la parole, Michel.
Oui, merci beaucoup, JR, pour la parole accordée. Je salue la sagesse de Valère et la thématique d'aujourd'hui. Je pense que la proposition de l'honorable Akindoula de voir la CENI réorganiser ou bien en quelque sorte réformer, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de penser à une seule réforme. Mais seulement, je suis en train de dire quelque chose. On doit comprendre que le problème de la CENI ou bien le problème... de dire la vérité telle que ça irait, ce n'est pas un problème des institutions ou bien des créations de lois, en votant des lois pour arriver à des résultats escomptés dans des choses. Et c'est plus ici un problème d'homme. Ce n'est pas la compétence ou bien la capacité d'éditer des lois qu'il faut reprocher à nos dirigeants, comme on l'est aujourd'hui, mais plutôt c'est la conscience de nos dirigeants que nous devons essayer de mettre en cause. Parce que dans tous les cas, on peut vouloir avoir comme président de la CENI celui qui vient de la société civile, ou bien de l'opposition, ou de la majorité, mais au finish, s'il y a une mauvaise volonté de pouvoir diriger les choses, pas de façon objective, on doit toujours le faire, parce que il y a rien que celui qui était un opposant aujourd'hui puisse devenir des maires de la majorité.
Voilà, merci beaucoup Michel. Merci beaucoup Michel. Alors on va écouter Bathier avant de retrouver notre invité. Bathier, bonjour, vous êtes à Kinshasa. Monsieur Bathier, vous êtes avec nous? Bathier, vous êtes avec nous?
Oui, je suis allé, monsieur le journaliste.
Alors, par rapport au sujet. Est-ce que pensez-vous? Pensez-vous que cette réforme plaidée par les uns et les autres pourrait renforcer réellement l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de cette institution et permettra de lutter contre son instrumentalisation politicienne?
Oui, monsieur le journaliste, si effectivement il y a les changements, si on parvient à mettre les gens intègres dans cette organisation, je pense que ça pouvait changer quand même les choses. Malheureusement que les gens qui ont créé le chaos dans ce pays, c'est les gens de la CENI qui sont partis de ces personnes-là. Parce que nous remarquons que même dans les provinces, les gens qu'on les a élus réellement, ils n'ont pas été vraiment réélus, ils n'ont pas été publiés par la CENI.
Oui, l'état des lieux, tout le monde a décrié et tout le monde a dit, ben voilà, les trois cycles électoraux, tout cas, c'était toujours émaillé des violences, des contentieux électoraux et tant d'autres. Mais maintenant, nous sommes à l'heure des propositions. L'honorable Toudou a fait des propositions, l'atelier national organisé par l'AET a fait de même. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez comme mesure d'ajustement de cette réforme?
Par rapport aux réformes, monsieur le journaliste, je pense que la société civile devrait d'abord faire une évaluation entre eux. C'est-à-dire qu'ils devraient peut-être chercher à convoquer aussi d'autres colloques avec la population pour qu'on puisse d'abord restituer la société civile. Et là, maintenant, si on essaie de restituer, de chercher à revoir la société civile, maintenant, on peut avoir des hommes qui sont intègres, qui pouvaient représenter la société civile étant une représentation de la population.
Merci beaucoup.
Et dès que nous avons des gens intègres,
donc vous exigez d'abord
la société civile. Je pense qu'on peut avoir une CENI qui va travailler vraiment dans l'indépendance. C'est un peu ça.
Merci beaucoup, Bathier. Alors, on revient à vous, à l'autre invité, mais je crois que c'est Maître Carlos qui est revenu. Maître Carlos, vous êtes en ligne. Voilà, on prend plutôt Henri Longuenja. Henri, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Alors, vous êtes secrétaire exécutif du collectif 24 et expert électoral à État. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on cherche par le schéma que vous avez pris, vous, au niveau de l'État, d'organiser... Allô? Vous êtes en ligne, Henri?
Allô?
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, Henri. Est-ce que vous nous écoutez?
Oui, c'est Jérémy, hein?
Oui, Henri, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Je suis en ligne JR 565.
Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, vous avez quand même suivi la réaction des auditeurs.
Oui, effectivement.
Okay, comment vous réagissez?
Bon, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que nous, au niveau de AETA, d'abord, comme une structure spécialisée dans les analyses techniques par rapport aux élections, nous avons même constaté c'est les mêmes sentiments que les autres ont exprimé là, du niveau de dégradation de notre processus électoral qui réduit aujourd'hui la RDC vraiment au niveau plus bas, surtout avec les élections de décembre 2018. Alors, ce qui est important ici, c'est de savoir que quand bien même les auditeurs disent que ce n'est pas le problème des textes, nous sommes conscients, même au niveau de AETA, que les textes ne valent que ce qu'ils valent, ceux qui sont censés les appliquer, mais il faut avoir aussi des textes qui aident à ce que ceux qui vont appliquer de bonne foi puissent quand même les appliquer. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si vous voyez les premiers textes qui étaient là, on a connu des élections en 2006, des élections en 2011. En 2011, on a changé même la constitution en cascade parce que les politiciens avaient leur objectif, c'est maintenir les présidents honoraires en place et que tout était taillé sur mesure. Ce qui fait qu'on a eu des textes conflictuels et qu'on a donné tous les pouvoirs au président de la CENI, qui est en même temps président de la plénière et le président du bureau. Et à ce moment-là, il pouvait s'arranger tous les pouvoirs qu'il avait et qu'on avait avec les présidents de ce mandat, Corné Nanga. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne des propositions claires. Voilà pourquoi, au niveau de l'État, nous avons pensé du 27 au 29 et la Constitution, parce qu'il y a des dispositions qui conduisent directement à la Constitution, nous avons analysé que nous avons trouvé bien qu'il faut opérer des réformes. Il est vrai que voilà, les hommes sont ce qu'ils sont, la société civile ne se met pas d'accord, mais il faut savoir aussi que la société civile est plurielle et que AETA qui est tombé comme ça, c'est connu, et voire même au niveau des élections de 2018 ici, État avec Collectif 24 et RESIC, a organisé une mission d'observation, et que c'est parmi les trois grandes missions nationales qu'on a connues par rapport à ce processus, et c'est au regard de tout ça que nous avons dit, il est important qu'on opère des réformes, notamment au niveau de la loi électorale. Au niveau de la loi électorale, il est important de revenir sur certaines dispositions relatives, par exemple, à la qualité des électeurs, aux conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, aux cautions, par exemple, des candidatures, la suppléance qui a été devenue ethno-sociologique ou fratrique. Tout ça, il est important qu'on revienne sur ça, parce que ça nous a donné un chaos électoral, et qu'à chaque instant qu'on avançait de 2006, au lieu d'avancer, nous sommes en train de régresser. Et au niveau même de la loi organique, nous sommes dit, pourquoi pas composer des instances, notamment, vous avez la plénière comme organe de surveillance, de contrôle, qui est dirigé par son président, et vous avez un bureau qui est aussi autonome et qui est contrôlé. Parce que, à l'allure où vont les choses, vous avez l'exécutif qui décide tout et qui fait tout et qui ne coûte personne, et c'est à ce moment-là qu'on arrive à toutes ces dérives. Les choix des gens, la plupart, ce sont des gens qui viennent des partis politiques. Et que je suis d'accord, même lorsqu'on parle de ceux qui représentent la société civile, surtout pour la fonction du président de la République,
la fonction du président de la CENI,
vous allez vous rendre compte que c'est toujours il y a l'influence politique dedans. Et à ce moment-là, c'est déjà préétabli parce qu'on veut coûte que telle personne passe. Et là, ça pose effectivement un problème.
Oui, mais ça pose également, monsieur, je vous coupe pas la parole, Henri Longuedja, vous êtes secrétaire exécutif du collectif 24 et expert électoral. Déjà, l'honorable Lutundula a pris l'initiative de pouvoir déposer déjà un projet au bureau de l'Assemblée nationale, de loi visant à réformer le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, mais on sait que la session extraordinaire, cette question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. La session de septembre sera essentiellement budgétaire. Et entre-temps, le bureau actuel est déjà fait mandat. Est-ce que faudrait-il attendre que ces bureaux puissent terminer tout le cycle électoral avec l'organisation des élections locales pour qu'on considère la fin mandat du mandat de ces bureaux?
Bon, je ne pense pas, à notre avis, que le fin mandat bureau est lié par la fin du processus avec l'organisation des élections locales, qui, du reste, pose encore des problèmes parce que il y a des analyses, il y a trop de préalables par rapport à l'organisation de ces élections que nous voulons de tout vœu. Mais ça va encore prendre du temps. Mais la session, même si elle est essentiellement budgétaire, mais cela n'empêche qu'on inscrive d'autres lois. L'honorable Lutundu l'a proposé par rapport à cette loi organique, mais que nous pensons au niveau de la CENI, qu'il y a encore des lois qui doivent accompagner tous ces processus de réforme de la CENI pour qu'on ait une CENI réellement indépendante. Notamment, il y a la loi électorale, il y a cette loi organique, il y a la loi d'accès à l'information, il y a même aussi la Constitution, parce qu'il y a certaines dispositions qui doivent toucher aussi à revoir la Constitution, notamment, il faut voir l'article 10 de la Constitution, l'article 70, alinéa 2, l'article 71. Donc, il y a plusieurs articles qui sont liés au processus électoral qu'il faudrait corriger et puis toucher la loi électorale et la loi organique. Et à ce moment-là, ça serait complet. L'idée pour nous, c'est qu'on ait vraiment une CENI réellement...
Oui. Quand vous évoquez l'article, les articles 10, 70 et 71, on sait que ce sont des articles qui ont posé énormément de problèmes par le passé, et surtout en ce qui concerne la nationalité congolaise, le mode de scrutin pour la présidentielle. Et ça risque encore de ressurgir et créer encore des problèmes s'il faudrait revoir. Donc, ces articles dont parlent les uns les autres des articles tabous.
Oui, les auditeurs doivent comprendre qu'on ne dirige pas un pays sur des bases d'hypocrisie. Mmh. Et qu'à un certain moment, il faut mettre les choses sur table. Ce qui est important, c'est que les articles intangibles, qu'on ne puisse pas les toucher, tel que l'article 220, qu'on ne puisse pas toucher. Mais il y a encore des articles qui posent problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les gens, après quelques temps, ils disent non, j'ai renoncé avec ma nationalité étrangère et puis je reviens, ainsi de suite. Il y a donc des dispositions qu'il faudrait vraiment toucher au niveau
de
la Constitution. Mmh. Vous prenez par exemple l'article 70, alinéa 2, quand on parle de la fin, tout ça, ce qui a fait couler l'encre.
Oui, il reste en place jusqu'à l'installation.
L'installation des nouveaux présidents élus. Mais quid si ils n'organisent pas des élections? C'est comme ça que nous, au niveau de l'État, nous disons non. Il faut qu'on prenne l'exemple, par exemple, de Madagascar, que les présidents en exercice, si, 6 mois avant la fin de son mandat, s'il doit se faire encore candidat, il doit démissionner. Pour que le président de la CENI puisse conduire pendant les 6 mois et organiser des élections. À ce moment-là, on n'a pas des gens qui restent éternels, qui refusent sciemment d'organiser des élections parce qu'ils voient que les paramètres les politiques, sociaux, tout ça ne sont pas à sa faveur et par conséquent, il ne peut pas organiser des élections. Mmh. Ça va nous aider quand même à mettre un peu de garde.
De l'indépendance, la neutralité.
Des choses et la neutralité, ainsi de suite. Et même ceux qui sont au niveau de la CENI, ils ont les devoirs d'ingratitude. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les gens qui viennent des partis politiques, à un certain moment, ils sont récusés par leur parti qui les réclame. Les autres veulent partir, les autres ne partent pas. Ils rendent compte
les dédoublements de partis politiques.
Tous ces dédoublements, ça pose énormément de problèmes. Les questions, par exemple, des suppléants. Mmh. Vous ne connaissez même pas qui est suppléant. On prend son épouse, on prend son neveu, et quelqu'un se représente, il est candidat député provincial, candidat député national, candidat président de la République, candidat sénateur, et il passe partout et on ne sait pas qui est derrière lui. Et parmi les réformes que l'État propose, c'est même la question des suppléances là, que le suppléant soit le meilleur perdant de la circonscription. À ce moment-là, ça aide un peu. Voilà. Il y a les questions de caution qu'on pensait que si on augmente la caution, c'est que oui, voilà, on va diminuer les normes.
Voilà. On va revenir sur toute cette question, Henri. Voilà. Il y a plusieurs mesures que vous avez proposées, qui rejoignent d'ailleurs les propositions de l'honorable Lotundula, qui a déjà, rappelons-les, déposé ses projets de loi visant à réformer le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, nous vous gardons encore en ligne, monsieur Henri Longenja, et nous rappelons que vous êtes secrétaire exécutif du collectif 24 et expert électoral à Aeta. Jérémy, vous nous avez rejoint, vous êtes à Lubumbashi et Dixon à Kinshasa. Jérémy, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Monsieur JR, bonjour également à tous les auditeurs de la Parole aux auditeurs. En tout cas, merci pour la pertinence de ce sujet, mais ce qui m'étonne, c'est que en RDC, nous sommes déjà habitués en étant des bons faiseurs de loi, mais cependant, la praticabilité est loin d'être retrouvée. Je pense que la proposition de l'honorable est à saluer à juste valeur, mais cependant qu'il faut, n'est-ce pas, quand on a eu à constater tous ces désordres qui ont eu à émailler le cycle électoral, qu'on a eu à passer, c'est notamment la CENI qui était presque au centre de tous ces sujets. Je pense qu'il faut que la CENI, qu'on puisse... Parce que ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait des hommes de Dieu là au-dessus, mais cependant, trouver beaucoup de choses à voir.
Oui, parce que quand vous soulignez qu'il y avait des hommes de Dieu, on sait tout de même comment ces gens ou ces personnalités ont été désignés saints des confessions religieuses. Et ils n'ont pas recueilli parfois l'unanimité. Si nous prenons le dernier cas, les catholiques ont quitté la salle et c'est d'autres confessions qui ont désigné Corneille Nanga. Et c'est pareil bien avant avec Balou, qui avait eu également des problèmes avec l'Église qui ne voulait pas l'Église catholique s'engager pour présenter la candidature de l'abbé Malou.
Tout à fait, M. Gier. Ça étonne du fait que tous ces éminents, soi-disant serviteurs, n'ont pas eu à faire grand-chose dans cette matière. Je pense qu'il revient aujourd'hui qu'on donne la responsabilité à la société civile avec des gens intègres, capables, n'est-ce pas, d'échanger, de pérenniser un peu les cycles électoraux dans les bons sens. Sinon, il y a beaucoup de milliers de Congolais qui meurent sur les têtes des autres, ce qui est inconcevable et inacceptable.
Merci.
Comment aujourd'hui, qu'on prenne les choses au sérieux, qu'on puisse, n'est-ce pas, remettre les choses sur le vide, question de assister au dérapage qu'on a eu à connaître au cours des cycles électoraux.
Merci beaucoup, Jérémy. Alors, Dixon, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution?
Oui, merci. Ma contribution à ce niveau du débat n'est pas très loin de mon prédécesseur, parce que ayant fait l'analyse de toutes les crises post-électorales qu'a connu notre pays, notre pays nécessite vraiment une réforme profonde en ce qui concerne l'indépendance de ses membres. Je pense qu'aujourd'hui, la politique a primé sur la désignation des membres de la CENI, ou même leur audit pose problème, parce que le Parlement protège ses envoyés au niveau de la CENI et ça pose aujourd'hui un grand problème. Confier la mission aux évêques ou à nos églises faciliterait les choses et le Parlement aussi sera libre et prêt pour auditer les membres de la CENI au moment où il y aura un dérapage. Je vois qu'à ce niveau-là, on aurait au moins à résoudre les problèmes. Parce que la politique, quand les politiciens envoient leurs membres là-bas, c'est pour protéger leurs intérêts et pourtant, à chaque cycle électoral, on assiste toujours à des violences, à des contestations pour lesquelles aujourd'hui même le président de la République ne connaît pas à quel nombre de voix il a été voté dans telle ou telle province. Et c'est pourquoi nous voulons attendre qu'il y ait vraiment une forte transformation au niveau de la CENI, M. Gilles. Ça faciliterait le pays à avancer dans la protection de notre jeune démocratie. Et nous sommes en train de consolider en ces jours. Et je pense que ça sera la meilleure des façons.
Alors, parce que vous avez parlé de la démocratie, pour arriver à baliser réellement les chemins de la démocratie, et qui est un indicateur important dans le développement des nations, il y a eu cette rencontre au niveau des agences onusiennes, essentiellement au programme des Nations Unies pour le développement, des échanges qui a eu lieu avec la CENI, et qui vont pratiquement dans le sens de scruter les moyens d'améliorer le processus électoral à travers la modification des lois nécessaires telles qu'évoquées par notre invité tout à l'heure. Olivier, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs. Olivier, vous êtes avec nous. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour. Je suis à Kikwit, oui.
Voilà, vous avez la parole, Olivier.
Ok, merci. Bon, voilà. Moi, je pense que il faudrait pas que nous puissions nous perdre dans les réformes. Prenons les élections qui viennent de se passer il y a quelques mois. Ce ne sont pas les textes qui étaient mauvais. C'est vrai qu'il y a des choses à refaire, il y a des choses à corriger, notamment la suppléance dont on venait de parler. Mais ici, il faut qu'on se dise que lorsque les hommes sont au-dessus des lois, ils peuvent tout se permettre. Je prends un cas ici. Nous avons la loi électorale qui devait être respectée. Mais lorsque il y a les élections et on n'affiche pas les résultats, pourquoi la justice ne peut pas se saisir de ces dossiers-là? Lorsque les finances ne sont pas présentées régulièrement, pourquoi on ne peut pas se saisir de ce dossier-là? Alors, moi, je pense que, comme l'avait déjà dit Thabo Mbeki, il était ministre, lorsque la justice fonctionne mal, le peuple ne peut qu'être malade. Et c'est ça le problème que nous avons. Parce que la CENI a fonctionné, et elle fonctionne en dehors des textes légaux. Et alors, j'aimerais qu'on puisse peut-être dire, bon, voilà, la justice, même en province, parce que les irrégularités, sachez que quand il y a irrégularité, il y a déjà qui a bénéficié et il y en a d'autres qui sont malades. Alors, il faudrait que la justice soit capable de se saisir des irrégularités au niveau des provinces et au niveau de Kinshasa, par exemple. Alors, si on continue à chercher à modifier les textes, Je rappelle que ça, c'est la maladie des Africains. Ils ne sont pas les seuls au Cameroun, à Guinée aujourd'hui, et même au Bénin. On cherche à modifier les textes lorsqu'on cherche à être favorisé. Et pour moi, aujourd'hui, il faudrait que la justice joue son rôle de façon vraiment, je dirais, comme le disent les textes. C'est, pour moi, c'est le seul problème. On peut modifier X ou Y articles, les articles qui ont déjà été cités. Nous avons vu les...
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Olivier. On va prendre juste un qui est à fond gourmé.
Avant les élections, parce que c'était à leur faveur, et il faudrait qu'on soit vraiment, je dirais, qu'on aime le pays. Il n'y a pas autre chose. On ne doit pas aller chercher de nouveaux textes, aimer le pays et appliquer les textes qui existent
voilà.
déjà. Et
puis, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. On revient à vous, Henri Elongenja. Votre réaction, Henri.
Justement, par rapport à les derniers auditeurs qui pensent que les textes, c'est pas, ce sont des hommes et que c'est la justice. Bon, parti, c'est comme j'ai dit que les textes ne valent que ce que valent ceux qui sont censés les appliquer. Mais nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est un état où on respecte les textes. Mais il faut qu'on ait des textes, que les textes soient lacunes. Et donc, dans les cas d'espèce, il est important, vu les débâcles qu'on a connus surtout à l'élection de 2018 et qui a conduit aujourd'hui la RDC puisse être à la 165e place sur les 167 pays selon l'indice mondial de la démocratie de 2019 ici, il est important qu'on puisse vraiment revoir nos têtes. Et à ce moment-là, on va recadrer les hommes. Et la question qu'il pose de la justice, c'est plus importante parce que même nous, au niveau de l'État, on a analysé même cette problématique de la justice, comment les contentieux se sont passés et comment faire pour corriger. Bon, il faut comprendre que le processus de 2018, c'est un processus où il y avait des arrière-pensées. Parce que, tenez, comme un auditeur a dit, jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'a jamais publié les résultats détaillés. Et qu'on est nos amis de justice au niveau du Katanga, même nous ont communiqué que la CENI aurait lancé toute une mission pour auditer les machines à voter et que derrière ça, il y a probabilité qu'on puisse formater toutes ces machines et que si on formatait les machines, c'est encore plus grave parce que c'est une destruction méchante des informations, d'autant plus qu'on a besoin. Alors, la justice qui avait des PV, parce que dans les PV qu'on fait dans les bureaux de dépouillement, on les envoie même au niveau de la justice. Mais bizarrement, lorsqu'on arrive lors des contentieux, au lieu que la Cour puisse se servir des PV qui sont à sa disposition, la Cour demande à un candidat de produire des preuves. Pourtant, la Cour est censée avoir toutes les PV. Donc, vous voyez, il y a un problème même au niveau de la gestion des contentieux, au niveau de la justice, et que tout ça ne peut se régler qu'à travers des lois. Voilà pourquoi des réformes au niveau de la loi, de toutes ces lois, ça s'avère nécessaire et que les élections ne se préparent pas à la veille. Et c'est ça les combles. Nous attendons les élections locales, bien sûr, et les élections futures à partir de 2023. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer. Et que nous pensons qu'à cette session même de septembre, bien que budgétaire, il y a encore des lois. Il est important que les quatre textes que l'État propose soient quand même mis sur table et que ça soit inscrit notamment la Constitution, la loi électorale, la loi organique et la loi d'accès à l'information. Ces quatre lois sont vraiment importantes. Alors, dire que les textes ne valent pas, ce qui est important, ce sont des hommes. Oui, mais les hommes doivent appliquer des lois. S'il n'y a pas de loi, comment nous allons savoir que la personne qui est là on freine la loi ou soit agit selon son gré? Donc, c'est vraiment important qu'on ait toutes ces réformes-là. Et voilà pourquoi ce qui est important, qu'on ait des instances de surveillance. C'est pourquoi qu'au niveau de l'État, nous disons il faut qu'on ait une instance de surveillance et que les gens qui sont aussi au niveau de l'exécutif puissent répondre, même en justice, par rapport à leurs actes. Parce qu'il n'est pas normal que vous organisez un débat électoral, vous organisez une fraude ou soit tout ce qu'on a connu sur 2018 ici et que vous dites non, c'est indépendant, tout ça, on n'est pas comptable devant la justice, c'est inadmissible. Et alors qu'il est mort d'homme à cause de tout ça. Donc il est important qu'on opère vraiment toutes ces réformes-là Et c'est ce qui demande la mobilisation même de la population par rapport à tout cela, parce que nos vies en dépend. C'est nous qui choisissons tous ces dirigeants-là, et ils sont là pour nous, mais il faudrait quand même qu'on arrive un jour, qu'on a proclamé un chef de l'État, on a proclamé un député, on a proclamé un sénateur, et que les gens sont contents. Même au niveau du Sénat, vous allez voir quelqu'un qui était candidat député provincial n'a pas été élu dans sa circonscription. Il a été candidat député national, il n'a pas été élu. Du coup, il est élu sénateur ou soit il est élu gouverneur. Donc, parmi les réformes que nous pensons, il faut revoir toutes ces situations-là, mais on ne peut pas les revoir si on ne touche pas des lois.
Voilà. Des lois, voilà. Merci beaucoup, Henri Longuedia. On va écouter Félicien qui nous a rejoint également. Félicien, vous êtes avec nous?
Bonjour, Gérard.
Quel est votre commentaire, Félicien?
Oui, moi, je dis que celui qui a parlé des lois qui sont bonnes, et ce ne sont pas les réformes qui vont changer les choses. Et moi, je soutiens son idée parce que c'est un problème d'hommes et des systèmes. Les lois que nous avons aujourd'hui, si nous avons des hommes qui veulent que les choses marchent, ça ira avec les mêmes lois. Mais tant que nous aurons des hommes et ou des femmes qui se battent pour leur ventre et qui n'ont pour aucun sens de patriotisme, qui feront tout pour que, tout en ayant des lois, mais ils fassent le forcing. Nous avons vu comment imposer tel pour imposer tel pour faire cela. Comme ça. Et chez nous, la devise, bon, on fait le forcing, de toutes les façons, les gens vont parler, après ils vont oublier, et tout ça. On triche à ciel ouvert, tout le monde voit. Et on est en train de faire des choses, c'est pas en cachette, les gens voient, puis après on oublie. Chez nous, le mensonge il devient vérité, et tout le monde accepte, et on vit et on continue avec. C'est pas un problème de loi, c'est un problème d'homme et de changement de système. Les jours où nous aurons un homme ou un groupe d'hommes qui décide de changer les choses comme au Botswana, qui décide de changer les choses comme au Ghana, ça marchera. Nous avons un problème des gens qui veulent conserver le pouvoir pour le pouvoir, qui veulent rester au pouvoir, et ils utilisent tous les moyens pour que la loi ne puisse pas être respectée. Et nous regardons tous.
Voilà, merci beaucoup Félicien. Alors Justin, vous êtes à Fongroumé, vous êtes avec nous?
Oui, monsieur le journaliste, je suis avec vous.
Oui, rapidement, en une phrase, qu'est-ce que quel est votre commentaire?
En tout cas, je dis merci à l'honorable Lutundula. Si vous voyez bien, nous sommes à la recherche d'un homme intègre qui doit diriger la CENI. Nous sommes partis des abbés, ils ont échoué. Nous avons pris les pasteurs, ils ont échoué. Maintenant, aujourd'hui, la recherche est convergée par la société civile, des gens non croyants. Peut-être c'est le chef de la société civile, sa femme est quelqu'une d'un parti politique. Alors, il ne va pas influencer son mari de voter ou influencer tel ou l'autre. Un jour, nous risquerons encore de recourir aux Européens ou soit aux Américains pour venir diriger les élections. Ça, c'est la faillite de justice chez nous au Congo.
Merci beaucoup.
Si réellement la justice faisait ça, son travail, tous les gens de la CENI devraient se retrouver en prison. Et comme il n'y a pas l'intégrité volontaire en craignant Dieu, la justice doit inculquer l'intégrité. Celui qui fait le mal, on les met en prison. En fouillant les prisons, les hommes s'efforceront à faire le bien et à mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Les gens nommés par
les compatriotes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin. On s'arrête là. Et puis, en nous disant merci à Henri Longuedia, secrétaire exécutif du collectif 24 et expert électoral à État. Merci à vous tous qui avez participé à cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. À très bientôt.